France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Mika. Je vous ai découvert avec votre trilogie consacrée à Paul Cézanne, Berthe Morisot et Vincent Van Gogh. Et je vous ai suivi et aimé dans votre dernier roman. À chaque fois, j'ai été émerveillée et conquise.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un J apostrophe aujourd'hui dans votre book club, l'amorce d'une histoire, le début d'une prise de parole, le plus petit éclat biographique, le minuscule carreau d'une vaste mosaïque de récits. J apostrophe, c'est le titre du nouveau roman de Mika Birman. Deux hommes, un étrange château et plus étrange encore, l'un des deux, sans âge, qui éructe régulièrement des phylactères, sorte de parchemin sur lequel on peut lire des histoires. Mika Birman est notre invité pour ce petit, court roman fascinant. Ensuite, nous retrouvons Mathilde Wagman. Elle nous parle des livres à destination des plus jeunes lectrices. Aujourd'hui, L'Abri, grand album pour petits enfants, dit Mathilde, pour qui son auteur, Adrien Parlange, quel nom, réussit là un tour de force et compose un futur classique. En fin d'émission, on jouera avec vous à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Mika Birman.
Bonjour Marie.
J apostrophe est le titre du nouveau roman. Faut vraiment, je peux pas faire autrement que de dire J apostrophe, mais c'est vraiment juste un J et juste une apostrophe sur la couverture. Ce roman que vous publiez aux éditions Anacharsis, bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Ici, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On veut faire connaissance avec nos invités, d'abord en imaginant qu'ils ont rencontré sur leur chemin des livres, ou peut-être pas de livres, ou peut-être des livres de temps en temps. Est-ce que vous diriez que vous avez plutôt rencontré des livres sur votre chemin, et est-ce que ça a commencé plutôt tôt ?
Ça a plutôt commencé tôt. Je suis né en 59 dans le nord de l'Allemagne, dans un petit village. Il n'y avait pas tant de livres que ça. Hein. Mes grands-parents, ils n'en avaient pas. Ils avaient 7, 8 en folio, Le secret des pyramides et ce genre de choses. Et donc, c'est avec mes parents, c'est cette génération-là qui commence à lire. C'est aussi la bascule. Avant, c'était le cochon et le poule devant la maison. Après, c'était le jardinier avec la pelouse tendue. Voilà, on est dans cette
frontière-là.
Cette bascule-là. Et
alors, que lisent vos parents après cette bascule ?
Ah, ils lisent ce qu'ils peuvent se procurer, parce que c'est pas si évident que ça, dans un village. Donc, mon père souscrit à un book club. Et il fait. Donc, il reçoit régulièrement, une fois par mois, je crois, un livre de science-fiction. Alors, à cette époque-là, les livres de science-fiction ne sont pas déjà des livres de science-fiction, c'est des romans utopiques et techniques.
Donc on est au milieu des années 60, vous
diriez ? Oui, fin.
Fin des années 60.
Fin des années 60, 70 commence. Et bon, ma mère, pareil, elle lit un peu des choses qui lui tombent sur la main. Et moi, je lis pareil, ce que je peux me procurer. Je pense au public français, mais qui va pas dire grand-chose. C'était un hérisson qui sévissait dans un hebdomadaire pour la télé, mais une télé qui avait que 3 programmes. Donc, il y avait la place pour mettre des petites histoires. Et ce sont devenus des livres, une page texte, une page image, avec un hérisson qui a comme ami 7 petits souris et qui vit les aventures au pays de Concagne, ce genre de choses.
Vous aviez de l'appétit pour ça ? Vous aviez envie de lire ?
Ah, c'était trop bien, c'était le texte et l'image. Il y avait un autre, si c'était pas Mickey, c'était Pedzi. Pedzi, c'était un ourson. Là, c'était presque de la BD, il y avait une image et du texte en dessous. Et Pedzi, il était génial parce que il pouvait fabriquer tout avec rien. Il prenait un arbre, il le coupait en rondelles, il avait des roues pour son chariot, voilà. Son ami était un pingouin et un pélican. le pélican qui sortait de sa bouche tous les outils nécessaires.
Tiens donc.
Eh ben oui.
Tiens donc. Pour le roman qui va nous occuper tout à l'heure. Vous dites qu'il y avait peu de livres autour de vous et que finalement, ces scènes que vous racontez, Micky Berman, dans un petit village allemand, voit passer la maison devant laquelle il y a les cochons et les poules, puis le jardinet, donc il y a une forme de bascule. Vous êtes un enfant qui vient dans cette bascule-là, au final. Est-ce que ça fait de vous un lecteur avec plein d'appétit, plein de curiosité par la suite, quand vous devenez adolescent, jeune adulte?
Je pense que oui, étant un enfant de la bascule et pas de la bohème. C'était compliqué. Par exemple, la BD était strictement interdite. Mes parents croyaient, comme tous les adultes à l'époque, que la bande dessinée rend bête. Donc là, j'étais obligé de me le procurer, mais sous le manteau, mes copains me prêtaient un exemplaire de Lucky Luke.
Et comment est-ce qu'ils l'obtenaient, eux, l'exemplaire de Lucky
Luke ? Ils avaient peut-être des parents moins peureux, qui n'avaient pas autant peur qu'ils deviennent bêtes, eux. Je n'en sais rien.
En tout cas, vous avez lu Lucky Luke avec plaisir, sous le manteau.
Je me rappelle, je le lisais ensuite vraiment à la lumière de la lampe de poche sous la couverture. Je me rappelle, parce qu'on parle d'images, on parle de mots, là, quand on parle de bande dessinée. Il y avait deux cases. Une case où un Indien qui est vert tient une bouteille qui est rouge. Et dans la case à côté, c'est la bouteille qui est verte et c'est l'Indien qui est rouge. Et j'avais compris qu'il avait bu le contenu. Ces genres de choses me plaisaient énormément. Tout ça pour vous dire aussi que c'est pas tout de suite le texte qui m'a happé. C'était aussi l'image. Et ensuite, premières études que j'ai faites, c'était les Beaux-Arts.
Et alors là, peut-être qu'il y a quelque chose de la pratique, notamment de la peinture, qui prend le relais dans votre vie, Micky Berman. Mais est-ce qu'il reste de la place pour la lecture? Et qu'est-ce que vous lisez à ce moment-là, quand vous êtes étudiant?
Quand je suis étudiant, on va dire, je lis peu, j'ai pas le temps. Je dois boire, je dois dire des bêtises et je dois faire l'art. Ça prend beaucoup de temps, dans un Berlin avec le mur autour. Donc, mais adolescent, j'avais des lectures. Et j'y pense parfois. Je crois qu'on n'est pas façonné par les bons livres, hein, par les grands classiques, tout ça. Ça se lit parce qu'à l'école, il y a la demande. Moi, j'ai grandi avec un auteur que les Français connaissent peut-être, qui s'appelle Karl May. Karl May était c'est l'auteur allemand le plus vendu au monde, encore aujourd'hui, après la Bible de Luther. Incroyable, mais vrai. Et c'était des histoires d'Indiens et de cowboys, de trappeurs, des choses comme ça. Et ce qui est très joli, tout ça, c'était entièrement et complètement inventé, parce que Karl May n'a jamais quitté son village, pas très très loin de là où je suis né. Chaque Noël, j'avais droit à un livre de lui sous l'arbre.
Ça ne faisait pas peur à vos parents?
Non, c'était du texte. C'était cet étrange mélange de texte et de l'image qui était...
Qui les effrayait.
Oui, qui était suspect de me rendre bête comme un âne.
Souvent, quand vous parlez de vos lectures, vous évoquez un autre auteur qui s'appelle Charles Albert Singria. On écoute une archive tirée d'une émission diffusée en 1983, le centenaire de sa naissance, sur la RTS.
Rien ne peut m'être plus indifférent que le succès dans ce qui définit la satisfaction d'une vanité. Est-ce de la modestie? Non. Ou peut-être de la dissimulation, l'orgueil? Nullement. Est-ce du mérite à cela? Aucun. Il y a alors une raison là-dedans. Certes, elle est simple. Si la vanité est absente chez moi au point que c'est presque une anomalie, c'est que les satisfactions qu'elle pourrait me procurer ne sont rien auprès de celles que procure la vie, la simple vie, pour celui qui a des sens, et la registration qu'acquiert et requiert une incessante joie poétique.
La joie poétique et la joie de la vie, presque pas complètement opposées, mais en tout cas comparées par Singria. Pourquoi est-ce que c'est un auteur que vous citez, Micky Berman?
J'aime bien que vous m'appelez Micky, parce que c'est Mika.
Depuis tout à l'heure, je dis Mickey, je suis désolée.
Oui, mais ça m'amuse beaucoup.
Je suis désolée. Mickey Habermann, alors pourquoi est-ce que vous citez Cyrilia?
Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Mickey, Mickey et le village miniature.
C'est peut-être pour ça.
Ouais, ça doit être pour ça.
À partir de maintenant, je vais vous appeler Mickey Habermann.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon prénom, parce que c'est Michael. Et le CH, c'est un son que, en France, on n'arrive pas à le prononcer.
Donc, moi, j'ai appris à le prononcer en portant une brosse à dents entre les dents. Michael.
Bravo. Hein? Eh ben, alors
ich heiße Marie Michael. Je sais faire le ich.
Le truc, la brosse à dents, il va falloir que
je vous explique.
On approfondit ça.
Ouais, voilà.
Et donc, je suis devenu Mika très tôt. Ce qui fait que quand j'ai commencé à proposer des manuscrits aux maisons d'édition, j'avais très souvent une réponse « chère madame », parce que Mika, apparemment, c'est aussi, et ça peut être un nom féminin, un prénom féminin.
Alors, Sangria. On était Sangria. Sangria, avant que je me trompe sur votre prénom.
Après, ça s'ouvre comme un éventail. Quand j'ai découvert la lecture et l'écriture... À côté des beaux-arts qui me prenaient la tête aussi, c'est devenu très riche, très riche, très vite, très riche. Et Sangria, c'est bien plus tard. J'étais déjà à Marseille où un ami, Jean-Roch Ziebauer, qui écrit lui-même des merveilleux livres, m'en a parlé. C'est un auteur suisse. Mm-hmm. Qui est-ce qui connaît les auteurs suisses? Si, parce que... Parce que quand je viens en France, ils font des merveilles. Sangria fait partie du lot. Mais c'est très discret, c'est très...
Et alors c'est quoi comme œuvre? Parce que d'ailleurs, il dit dans cette archive, Sangria, qui est né en 1883 et mort en 1954, rien ne m'est plus étranger, rien ne m'est moins séduisant ou plus indifférent que le succès. Donc il y a quelque chose de la discrétion en effet de cette prose, mais de quoi parle cette œuvre-là?
Elle parle souvent de petites choses, elle parle des tours en bicyclette. D'ailleurs on en a fait une... dans la haute vallée, sur ses traces, sur les traces de Sangria, où j'ai trouvé son foulard noué aux quatre coins, au bord de la route, 100 ans plus tard. Donc,
oh, waouh!
Ah oui, là, on frise les miracles. L'œuvre de Sangria, il a écrit sur la reine Berthe. Il était très féru en musicologie, il connaissait très bien la musique médiévale. C'est des livres et des textes parfois assez hermétiques et obscurs, mais il y a toujours, sur chaque page, une phrase qui vous fait juste tomber de votre chaise. Et c'est ça qui est ce qu'on cherchait, ou ce qu'on cherche toujours, peut-être. Et donc, Sangria, c'est aussi le plaisir de l'inconnu, parce que ces petits Suisses, personne ne le connaît. Jean-Roch et moi, on a essayé de faire 3 jours Sangria à Marseille avec l'aide de l'ambassade de Suisse. Ça n'a pas pu se faire, parce qu'en fait, ils ne le connaissaient pas. Mais c'est un auteur merveilleux.
Quand vous dites que c'est toujours ça que l'on cherche, Mika Berman, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous cherchez encore ça, à tomber de votre chaise en lisant des phrases?
Non, aujourd'hui, j'essaie de faire tomber de la chaise.
Ça, c'est une chose. Mais en tant que lecteur?
Oui, bien sûr. À Marseille, c'est les tomates par terre, donc il ne faut pas trop... souvent répéter l'exercice. Les lectures sont... Ça, c'est une phrase un peu bête, mais mystérieuse. Parfois, j'ai des larmes aux yeux à cause d'un livre parfaitement anodin et mal écrit, et ce qu'on appelle un livre d'égard. Et parfois, j'en ai pas des larmes aux yeux, et pourtant, je sais que je devrais les avoir. J'ai pas essayé. J'ai lu La Recherche de Proust, qui m'a cordialement ennuyé jusqu'au dernier chapitre où je l'ai cordialement détesté. Mais j'ai tout lu.
Pourquoi ?
Parce que je voulais. Quand j'ai dit des choses comme je viens de le dire, je voulais pouvoir en parler.
Le peser, oui.
Ouais, voilà, et le défendre, ce que j'ai dit. Je sais que là, je n'ai pas fait plaisir aux critiques littéraires français.
Mais on n'est pas là pour ça, Mika Berman.
Ah, bon, donc je vais continuer.
Quand vous dites « je suis étonnée parfois par ma propre émotion en feuilletant un roman qui est prétendument mal écrit ou un roman de gare », alors si on essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui fait qu'une émotion naît, même d'une pas très belle phrase, alors que vous dites « chercher à tomber par terre et peut-être même à vous faire mal aux fesses sur les tomates en ouvrant des bouquins »
Je crois que c'est juste des sentiments. L'orpheline qui sort de la porte et qui court dans un champ en fleurs, genre petite maison de la prairie.
Ça marche.
Ça marche. Pour moi, ça marche. J'essaie de l'éviter dans mes livres, mais sur moi, ça marche très très bien. Oui.
Et vous avez appétit de lire ce genre d'histoire ou de voir ce genre d'image ?
Non, ça me surprend toujours. Même ma propre émotion me surprend.
Bah, c'est, parfois, le propre, c'est le propre de l'émotion de nous surprendre.
Oui, oui.
On va parler de votre livre à vous, juste après ce morceau qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a ?», une apostrophe qui rappelle peut-être celle du titre de votre roman. Mika Berman, c'est le morceau qui ouvre le nouvel album du groupe O2N, lequel vient de sortir et s'appelle « Doula ». Et dans ce morceau, on entend des choses qui m'ont aussi fait penser à votre roman. Je cite « Jolie zombie arpente des couloirs et les non-dits deviennent trajectoires. Il n'y a pas de problème, on aime la bagarre. Qu'est-ce qu'il y a ? »
Qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde au loin, les vagues s'écrasent. Chante pas le lac du Connemara. Qu'est-ce qu'il y a ? Après l'orage, la nuit se lève. Un jour de plus qui verra vivra. Faut voir. Rentre à plusieurs, on fera pas d'histoire. On vient pour jouer, on cherche de l'or. Petit jeune allume des pétards. Sniff de la drogue et jette dans les bars. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas si sûr qu'on paiera pour voir. On veut gagner notre poids en dollars. Par mois. Jolis zombies arpentent des couloirs. Et les non-dits deviennent trajectoires. Y'a pas de problème, on aime la bagarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire quoi avec mes rêves ? Accroche-toi, je marche ou crève. Approche un baiser de lèvres. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour ceux qu'on aime, on fait des gâteaux. Mange des grosses parts sur des gros bateaux. 300 sur le périph', je prends la photo. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de passeport, même si ça saigne.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Une décharge, vas-y, je signe. L'eau est à 30, donc on se baigne.
Qu'est-ce qu'il y a ?
L'eau est à 30, donc on se baigne. L'eau est à 30, donc on se baigne.
Qu'est-ce qu'il y a ?
L'eau est à 30, donc on se baigne. Pas de pansement, même qu'est-ce si ça saigne.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je peux vous aider à classer vos souvenirs, mettre tout ça au propre, suggère une jeune fille à l'un des deux occupants d'un étrange château. Mettre le passé au propre, essayer en tout cas, c'est peut-être l'enjeu du livre qui nous occupe aujourd'hui dans votre Book Club. Jay est le maître des lieux de ce château, Ronce, et son majordome. Jay ne va pas très bien, il crache régulièrement et involontairement des sortes de parchemins sur lesquels sont inscrites des histoires. Ces histoires, il s'en défend d'abord comme il se défendrait presque d'avoir une mémoire ou une famille. En entremêlant le récit de la vie de cet étonnant duo avec les récits que crache le propriétaire des lieux, vous offrez, Mika Berman, un roman organique sur la manière dont les histoires habitent nos corps et peut-être quoi qu'on en dise. Ça s'appelle J' apostrophe et c'est paru aux éditions Anacharsis. Est-ce que vous voulez bien, Mika Berman, peut-être créer un décor pour nous, cette bâtisse, cette vieille bâtisse, ce château, dont on ne sait pas trop depuis quand il existe, ni exactement à quoi il ressemble, et pourtant il est important, puisque c'est presque aussi une sorte de corps abritant les corps dans l'histoire.
En tout cas, le château est sans cesse noyé dans la pluie et dans la brume. Parfois, je me demande s'il n'est pas en Angleterre. Le château décrépit, c'est juste trop joliment facile. On a souvent dit que je suis un auteur de genre, ou qui parodie des genres, mais moi j'aime bien ça parce que, voilà, un château décrépit, il ne faut pas en dire trop ou beaucoup de choses, parce que tout le monde sait déjà.
On a des images en nous avec ces quelques mots.
On s'y balade déjà sans l'aide de l'auteur. Et donc, l'auteur peut écrire des livres minces et s'épargner beaucoup de peine.
Et pourtant, ça vous sert à quoi cet imaginaire? Parce que vous choisissez quand même un château décrépit et pas une prairie ni un appartement contemporain. Donc, il y a bien quelque chose qui vous intéresse dans ce décor.
Mais dans ces décors, c'est la place, parce qu'il me fallait la place, parce qu'ensuite, ces châteaux vont être envahis par toute une bande, une famille, la famille de Hrons. C'est aussi un château est isolé, il est seul. Je voulais pas que les deux, majordome Hrons et maître G, soient facilement accessibles. Et donc le château s'y prêtait, avec le jardin retourné à l'état sauvage tout autour. Et une fois le château bâti, c'était facile de trouver les deux personnages, Pat et Patajon, Don Quichotte et Sancho Panza, et ainsi de suite, un vieux majordome et
un maître des lieux.
Un maître des lieux complètement décrépit.
On va y venir à ces deux personnages-là qui habitent une partie de votre texte, Mika Berman, mais si on revient à l'origine de l'écriture et à ce château décrépit, est-ce que c'est une image qui un jour vous arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui traîne en vous pendant des semaines, des mois, peut-être des années, et puis vous vous mettez à l'écrire? Est-ce que vous sauriez nous décrire la manière dont l'écriture de ce texte commence?
J'aimerais pouvoir vous dire, je ne peux pas. Parce que c'est tellement aléatoire, bizarre, surprenant. Parfois, un roman, pour moi, part d'un simple dessin, un gribouillis que je fais en téléphonant. Et je me dis, tiens, ça pourrait devenir un roman. Parfois, je commence un roman avec toute une structure que j'ai établie, tout ça, et ça se casse la gueule. Au bout de 100 pages, il m'arrive plein d'aventures en écrivant. C'est pour ça que j'écris, entre autres. Je ne devrais peut-être pas avouer ce genre de choses. Je sais rarement comment ça va finir.
Vous cherchez, finalement, vous êtes même curieuse de votre propre travail.
Non, je ne cherche pas, je trouve, comme il disait l'autre. Non. Je sais à quel moment je ne peux plus perdre le texte, le roman, cette vie-là, cette monde-là, parce que là, ça commence vraiment à tourner rond comme une toupie, et là, il faut juste que je ramasse les morceaux de plus en plus. C'est comme une mayonnaise aussi, non? Mais les ingrédients, on remue. Parfois, il y a des jours où ça marche de tonnerre, et parfois, l'aioli, la rouille ne veut pas prendre, et si elle ne veut pas prendre, vous pouvez rajouter du sel, une patate écrasée, ça marchera jamais.
Oui, alors ça, comment est-ce que vous le savez, Mika Berman?
J'ai
que
laissé
désormais,
au bout de...
le texte pourra plus mourir d'une certaine manière, pourra plus vous échapper.
Quand je ne me réveille plus la nuit pour le travailler. Là, ou quand je me réveille tout le nuit, mais avec joie pour pouvoir le travailler.
Là, c'est qu'il y a un texte. C'est qu'il y a quelque chose qui est en route, quoi.
Là, la mayonnaise a prise. Et donc, je plus de soucis, les invités peuvent arriver.
Les invités, en l'occurrence, commencent par être Jay et Hrons, ce maître et ce majordome. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord du majordome? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage de Hrons? À un moment donné, je crois que c'est Jay qui lui dit « Mais toi, t'as quel âge ?» ou « Vous avez quel âge ?» Et bon, ils ont des dialogues extrêmement drôles et toujours, ça ne répond jamais complètement. Il y a toujours quelque chose qui défie la question.
Alors là, c'est un... presque un scoop que je vous livre. En fait, Hrons et Chronos. Et toute sa famille qui arrive, c'est un peu des dieux et déesses plus ou moins grecs. J'étais très, très vexé quand une mauvaise série américaine a repris ça, les dieux grecs dans la ville d'aujourd'hui. Mais c'était après mon manuscrit, donc je n'y peux rien. Je n'ai pas touché un rond. Donc, Rons, c'est celui qui défie et qui fait défiler le temps. Mais de trop le faire remarquer, c'est pour ça qu'ils se répondent toujours à côté. Mmh. Hein, parce que c'est pas parce que c'est Chronos, décrépit, qu'il va parler mieux que quelqu'un d'autre. Non, nos dialogues sont toujours...
Des dialogues de sourds.
Ah, j'aime bien les dialogues des
sourds. Bah, en tout cas, à un moment donné, je ne sais plus quel personnage le dit, mais s'il y a une famille, ce serait une famille de sourds. Et s'il y a dialogue, bon, ce sont des presque des artifices de dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui circule. Mais ça veut dire qu'on n'est pas complètement certain et certaine que l'autre en fasse entend.
On se rappelle tous en attendant Godot, de Beckett.
Bah, on y pense d'ailleurs en vous lisant.
Quand j'ai découvert ça, j'étais époustouflé. Il ne se passe rien, ils ne disent rien. Et pourtant, on reste 2 heures scotchés devant le spectacle.
Et alors, pour rencontrer ce deuxième personnage, qui est une sorte de maître des lieux, mais on se demande d'ailleurs sur quoi il règne exactement, qui s'appelle Jay, on va écouter un premier extrait de votre texte, Mika Birman, J'. Et c'est la première description de ce qui sort de son corps.
Ça naît dans la gorge écroît. Les joues enflent, les yeux se révulsent, les lèvres se séparent. Dans l'ouverture apparaît du blanc, pas celui des dents, qui d'ailleurs sont ivorines, cernées de tartre brun comme le fond d'une très ancienne pissotière. Plutôt un blanc blafard et maladif. Est-ce la tête d'un ver solitaire se trompant d'orifice? Ça arrive parfois. Non, c'est du parchemin. Au XVIIe siècle, on brûlait les sorciers pour moins que ça. Au 19e, on aurait crié à l'ectoplasme. Aujourd'hui, le phénomène fait plutôt penser à une caisse enregistreuse. Une bande large et plate surgit de la fente, s'élève dans les airs, cingle vers le haut, frappe vers le bas. L'extrémité s'enroule, membre maladroit d'un alien naissant. Le phylactère flotte à l'horizontale de la bouche qu'il exhale. Et alors, on voit qu'il n'est pas vierge.
On est au début de votre roman, Mika Birman, et voilà, on est prévenu, il y a des choses qui vont sortir du corps de Jay, ces phylactères dont on découvre très rapidement qu'ils ne sont pas vierges, et on va pouvoir les lire, et la mise en page fait que on va comprendre rapidement qu'une partie du récit, de la narration, nous conte la vie de ce château, de Jay, de Rons et des gens qui vont arriver, tout divin qu'ils sont, et l'autre partie du texte sur la page, ce sont ces bouts de papier qui sortent de la bouche ou du corps de Jay, de manière très organique. Là aussi, j'ai envie de vous demander d'où vient cette idée, Mika Birman, que ce maître des lieux va éructer des phylactères.
Ça vient très certainement de la peinture, moyenâgeuse et même encore début de la Renaissance, où les phylactères sont peintes devant la bouche des saints. Parce que la peinture, malheureusement, est muette, elle ne peut pas parler. Donc la manière de faire parler les saints personnages, c'était ça, leur donner un phylactère. Ici, c'est presque le contraire. Les phylactères que crache G ne l'intéressent nullement. Ils sont jetés par terre, ils ne sont pas mis dans l'ordre, on ne crie pas au miracle. Pour moi, ils sont importants parce qu'ils contiennent quand même, sur ces phylactères est écrit l'histoire de ma famille, de mes grands-parents, de mes parents, et un petit peu de moi. Et c'était peut-être un subterfuge. Je ne savais pas comment caser un petit peu d'écriture autobiographique dans mon œuvre, jusqu'à ce que je trouve cette espèce de tampon, ces vieux décrépits qui le crachent sans façon. Mmh.
Mais parce que quoi? Parce que vous vous méfiez du contenu autobiographique dans la littérature ou dans la vôtre?
Ah, Je me méfie de tout mot et de toute phrase et de tout paragraphe et de toute page et de tout livre, comme tout être raisonnable
devrait
le faire.
Comme de bien entendu.
Toute la joie est là, non, de se méfier et ensuite se laisser quand même convaincre.
Les subterfuges, c'est que ça passe par le corps d'un autre.
Oui. Alors, je crois que parfois je réalise même pas exactement ce que je fais. L'autre jour, j'avais une rencontre en librairie et il y a quelqu'un qui me dit mais j'ai qui crache des textes comme un simple personnage, mais c'est peut-être Jéhovah, non, c'est peut-être Dieu qui. Je vous garantis, je n'y avais pas pensé.
Mais on vous croit, nous on y pense immédiatement. Ah, ça fait quand même penser à quelque chose de l'ordre du dieu ou du démiurge. Mais ce qui est assez beau dans ce texte-là, c'est que tout reste au seuil, de la même manière que vous disiez tout à l'heure que Ronce était Chronos et qu'il était le temps, et que quand on lui dit « tu as quel âge, Ronce ?», il dit « je suis très vieux, je m'enroulais déjà depuis la nuit des temps, à la naissance du monde ». Vous ne dites jamais « je suis Chronos ». De la même manière, ce J apostrophe est au seuil du jeu, Mika Biermann. Vous restez au bord de tout avec ce roman-là.
Ben, peut-être que je suis quelqu'un qui doit rester au bord de tout, hein, pour ne pas tomber. D'un côté, il y a le vieux avec son majordome, et c'est une histoire entièrement inventée. Je ne connais personne qui ressemble à ça. Ce qui crache sur ses phylactères, c'est l'histoire de ma famille, où rien n'est inventé. Mais finalement, je crois où je voulais en venir avec ces romans, les deux ont exactement le même poids. C'est pas parce que l'histoire de ma famille est vraie, entre guillemets, c'est pas pour ça qu'elle a plus d'importance que une invention d'un château, d'un majordome, d'un vieux décrépit et de la famille qui là aussi débarque. Parce que c'est quand même deux histoires de famille à chaque fois, hein, sur le phylactère et dans le château. C'est des familles qui se rentrent dans les plumes.
Et en même temps, vous soulignez cette histoire de n'avoir pas d'importance, parce que d'une part, au départ, personne ne semble s'intéresser à ce qui a marqué sur ses parchemins. Et puis, vous en faites quelque chose de très organique, Mika Biermann. C'est-à-dire que là, on dit ça sort par la bouche, mais c'est une manière élégante de dire, parce que ça, parfois, ça fait aussi penser à de la merde, à du vomi, à de la pisse. Vous avez une manière comme ça d'aller vers l'organique presque du déchet du corps avec ces histoires-là.
Il y a toujours un corps qui est pourri dans mes romans d'un roi. Il y a la merde du roi qui se transforme en momie sous les yeux ébahis de tout le monde. Je crois que j'aime ça. J'aime faire périr et pourrir au moins une ou deux personnages. Parce que dans la vie aussi, ça nous arrive tout le temps, qu'on trébuche sur de la pourriture.
Puis ça fait vaciller un peu les vanités, c'est-à-dire que ce maître des lieux, bon, on le regarde autrement à partir du moment où on imagine qu'il y a peut-être un verre qui lui sort de la bouche.
Il y a aussi une histoire de réalisme, de réalité. Réalisme, excusez-moi, ça c'est un gros mot. Ce qu'un roman ne peut pas, il ne peut pas sentir, il ne sent pas mauvais, il ne dégage pas d'odeur. On peut essayer, on peut décrire des. Et je le fais parfois trop. Je me rappelle quand j'ai écrit les trois jours dans la vie de Paul Cézanne, je voulais absolument enlever à Cézanne toutes ces couches de signification, toutes ces interprétations grandioses du maître du cubisme et tout ça. En tout cas, du père du cubisme. Et donc, je le fais sortir de son atelier et il rencontre un chien et le chien n'arrête pas de caguer et de pisser. Et quand je relis ça aujourd'hui, je me dis, mais ça, c'est un peu maladroit, mais bon, j'avais besoin d'aller pas là. Mais les corps qui pourrissent, le chien qui pisse, tout ça, ça devrait se sentir. Donc, je vais proposer à Narcassis, dans le prochain livre, il va y avoir des petites pochettes qu'on frottera, ou je sais pas, qu'on ouvrira, et on aura les odeurs absolument infâmes des corps qui. Non.
Peut-être qu'il n'y a pas besoin.
Peut-être qu'il n'y a pas besoin.
On écoute Marianne, auditrice du Book Club. Elle a lu ces livres que vous avez consacrés notamment à Paul Cézanne ou à Berthe Morisot, et elle a aussi lu J'. On l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour Mika. Je vous ai découvert avec votre trilogie et je vous ai suivi et aimé dans votre dernier roman. À chaque fois, j'ai été émerveillée et conquise par votre pouvoir quasi démiurgique de faire surgir des personnages. Ici, donc, G et son valet Franz, des décors, ici le château, mais aussi des couleurs. Donc j'avais envie de vous poser la question suivante, Mika. Est-ce que votre passé de peintre et de guide conférencier dans les musées pourrait expliquer ce pouvoir magique de rendre vivante votre et cette littérature ? Merci Mika pour votre réponse.
Bah merci à vous Marianne pour cette question. J'adore quand on entend un peu le décor autour de vous, auditeurs, auditrices. Là on entendait la ville derrière Marianne. Est-ce que votre passé de conférencier dans les musées et votre pratique de la peinture informe ou nourrit votre pratique de l'écriture, demande Marianne.
Comme tout nourrit tout et tout le monde mange tout le monde, oui, il y a bien sûr un amalgame. Mais d'abord, je voulais devenir peintre. Tout simplement peintre. Pas écrivain. Pour des raisons presque, on va dire, de place, j'ai dû abandonner la peinture une fois installé à Marseille et commencer à écrire parce que ça demande beaucoup moins de moyens. Ça demande un carnet, à l'époque, un carnet et un crayon. Aujourd'hui, une tablette, vous pouvez écrire tout, créer les mondes que vous voulez. C'est incroyablement pratique. Mais ma première idée, c'était de devenir peintre. Et je crois que la peinture me doit beaucoup d'avoir arrêté parce que je crois que je n'étais pas très bon. Ensuite, j'ai commencé à travailler au musée de Marseille en tant que conférencier, c'est un gros mot, c'est un grand mot en tant que médiateur. À l'époque, on était juste des guides et pas très suprêmes. Ça, c'était pour manger. Mais c'était aussi, je connaissais et j'aime toujours les tableaux parce que je voulais devenir peintre. Donc, le peintre avorté et son travail au musée où il explique la peinture aux autres. Tout ça, bien sûr, se glisse dans mon écriture. Et j'en suis fort content parce que je crois que personne ne peut parler de la peinture ou d'un peintre sans avoir peint. Ce qui est complètement faux, ce que je viens de dire. Parce que tout... C'est pas comme ça que ça se passe. Les écrivains ont cette formidable faculté de parler des choses qu'ils n'ont jamais fait, ni vu, ni goûté. Mais quand même, ça m'aide énormément.
Mais alors, ça vous aide à quoi? Parce que Marianne dit, il y a une puissance d'évocation, d'un décor, d'une image. On a parlé de la matière la plus organique des corps. Ce serait ça que ça vous permet, c'est-à-dire d'avoir travaillé cette matière-là et d'aimer cette matière peinture. Ça produirait ce genre de phrases?
Moi, je sais ce que c'est, quel miracle est la peinture. Vous avez un support neutre et blanc, vous trempez votre pinceau à 3 ou 30 poils dans un magma infâme de couleurs qui sont rien, et ensuite vous en sortez peut-être une tête, peut-être un paysage, peut-être un cheval avec des ailes, je ne sais, mais et ces chevals ailés n'est pas un cheval ailé, c'est toujours juste une feuille de peinture sur un support quelconque. Et dans tous ces failles qui s'ouvrent, dans tous ces abîmes minuscules de l'impossible, la littérature, ma littérature, me procure les mêmes sensations. Quel miracle de dire le soleil brille et penser que... Et hop, ça brille. Et en même temps, ça ne brille pas.
On va écouter un nouvel extrait de votre texte, J'.
Je trouve, moi, que ce qu'il y a de plus touchant, de plus poignant, de plus vertigineux pour une âme sensible, est la vue des herbes folles qui poussent dans le jardinet d'une maison abandonnée, construite par on ne sait qui ni quand, au fond d'un terrain entre deux murs. Une maison au volet clos, à la façade symétrique, au perron condamné, contenant peut-être les restes de une ou deux vies. Une tapisserie en lambeaux, quelques meubles bancals, des assiettes dans le placard de la cuisine, enfermées dans le noir comme des enfants passage, dans la plus grande indifférence.
une maison qui a connu son lot de crimes et de larmes, mais dont la pelouse a toujours été bien entretenue. Jusqu'au jour où quelqu'un, un survivant, un fils prodigue, un huissier, un policier, a fermé à clé en soupirant ou en haussant les épaules, s'éloignant en sifflotant ou en pleurant, peu importe. Pour toujours permettant ainsi aux herbes du jardinet de monter, de fleurir, d'envahir, avec cette désinvolture propre aux plantes ployant sous le vent et se redressant aussitôt, comme si de rien n'était, et comme si rien n'importait vraiment.
Vous savez, Mika Berman, c'est bizarre d'expliquer pourquoi on choisit de lire tel ou tel passage dans cette émission de radio. Donc on fait ça tous les jours, de choisir des extraits. Et il y a des fois, c'est très, cartésien, je peux l'expliquer, je sais pourquoi on choisit ce passage-là, ça nous sert de... Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, comme une évidence, je me suis dit, il faut entendre Mélusine qui parle de ce jardin-là, de ce jardin... qui s'en fiche de comment on le regarde, qui est ignoré des habitants de la ville. Il y a une puissance dans cette image-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, c'est l'image, c'est peut-être l'image que je garderai de ce roman-là. Débrouillez-vous maintenant.
Ça me fait plaisir, parce que les jardins, les jardiniers, c'est très important pour moi, parce que c'est un symbole de quelque chose. Dans mon village, dans le village où je suis né,
en Allemagne, du coup.
Maintenant, mon village, c'est Marseille.
C'est ce que j'allais dire, c'est loin de Marseille, ouais.
En Allemagne, les jardiniers, donc là où avant se promenaient les cochons et les poules, est une pelouse nickel, tondue à ras. Alors, quand j'étais adolescent, enfant, c'est moi qui poussais la tondeuse. Tous les samedis, une symphonie de tondeuses dans tout le village éclaté. Maintenant, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est des robots tondeurs qui se baladent 24 heures sur 24. Et la pelouse est nickel.
Mais là, c'est pas du tout le genre de pelouse qu'on vient d'entendre.
Mais justement, justement. Et cet espoir, ce dernier espoir de maîtrise qu'ont ces braves habitants de mon village, du village où je suis né, en tondant la pelouse à ras, comme quelqu'un qui se rase tous les deux heures, c'est à la fois touchant et pathétique. Et je crois que n'importe ce qu'on fait, on est toujours dans une lutte entre la maîtrise. Quand j'écris, je veux maîtriser. Et en même temps, on ne peut pas tout maîtriser. Donc il faut lâcher, laisser couler la Volga. Et c'est là-dedans, c'est entre les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est entre les deux où, pour moi, se crée quelque chose.
Il y a aussi l'idée d'un jardin qui vit sans nous, qui n'a pas besoin d'être regardé par les habitants de la ville, qui se débrouille, qui pousse à l'abri du regard. Et en même temps, cette jeune femme qui arrive et qui est la jeunesse aussi, quand même. Tout à l'heure, on disait « Rhône, c'est le temps, c'est ce très vieux temps ». Elle, elle est là, elle propose des trucs, quoi. Elle dit, vous voulez que je vous aide à faire du tri ? Partout où ça râle, partout où ça vieillit, elle amène un peu d'air frais, cette Mélusine.
Ouais. Ah oui, là aussi. Qu'est vieux, qu'est jeune, mais entre les deux. Qu'est pelouse tendue, forêt vierge, non. Mais peut-être un jardin qui est retourné à l'état sauvage, où la jeunesse... Mélusine et ses frères vont rôtir un bœuf entier. C'est cet endroit-là qui me plaît. J'admire beaucoup Jacques London qui va dans la forêt sauvage ou des écrivains qui marchent sur la pelouse tendue. Mais moi, je ne veux pas choisir là-dedans. Je veux rester dans un entre-monde parce que ça me convient mieux. Ça me donne un lieu de joie et de vie plus intense.
On va écouter la voix de Blaise Cendrars dans une archive de 1950.
Le langage est une chose qui m'a séduit, et le langage est une chose qui m'a perversé. Le langage est une chose qui m'a formé, le langage est une chose qui m'a déformé. Et voilà pourquoi je suis poète, probablement, c'est que je suis très sensible au langage. Correct ou incorrect, je m'en bats l'œil pourvu que ça soit bien vivant. Réellement, en toute sincérité, on a peu de satisfaction. devant sa page à écrire. On a très peu de satisfaction et tout à fait, pour moi, tout au moins exceptionnel, me dire ça, mon petit Blaise, c'est pas mal torché, c'est même très bien. Vous se satisfaites-là, on se l'accorde bien, bien, bien rarement. On voit surtout, quand on publie un livre, tout ce qu'on n'a pas mis dedans, qu'on avait envie d'y mettre, tellement difficile de cerner les choses avec l'écriture et avec des mots, qu'on reste déçu.
C'est la voix de Blaise Cendrars. C'est rare de pouvoir se dire « Ah, mon bon vieux Blaise, ça c'est bien torché ». Fait partie aussi des auteurs que vous citez, Mika Biermann, Blaise Cendrars. Il dit « Le langage m'a formé, m'a déformé, m'a séduit, m'a perverti ». Est-ce que vous pourriez, dans sa suite, décrire le rapport que vous avez au langage ? Vous plissiez des yeux parce que je parle pas assez fort ?
Non, je plisse les yeux parce que je réfléchis.
Ok.
Salut Blaise, c'est, il dit je m'abats l'œil, c'est très beau ça, c'est c'est gargarisant avec sa salive. C'est Blaise Cendrars, c'est l'auteur qui m'a fait venir en France. Il m'a pas appelé, il était mort, mais il a écrit des livres que j'ai lus en allemand et que ensuite je voulais lire dans le Urtext en français. Je savais même pas qu'il était suisse à l'époque. Tout à l'heure, on parlait des Singria.
Ouais,
là, on a le deuxième Suisse. Voilà, les Suisses sont merveilleux quand ils se mettent à écrire à Paris. Et ces rapports au langage dans Cendrars, quand j'ai pu le lire en français, mais ou alors peut-être éventuellement dans une bonne traduction, je voulais en faire le mien. Je n'ai bien sûr pas réussi, parce que Blaise Cendrars, c'est Blaise Cendrars, c'est Mika Biermann, c'est moi. Mais... il y a un impossible, il le dit.
En tout cas, il dit que c'est très difficile de saisir le monde avec les mots.
C'est très difficile.
Voire impossible.
C'est un homme qui prétend avoir écrit entre 5h et 6h du matin, et le reste de la journée, il a été libre pour voyager, boire et courir.
La belle vie.
Oui, voilà. Donc, non, c'est... J'avoue que c'est difficile de... parler de son écriture. Peut-être pas de l'écriture en général, parce que...
Mais de la sienne propre.
Ouais, c'est difficile, parce que quand on l'a fait, on survole la faille. Je survole la faille, mais quand je dois mettre le doigt dessus, elle se dérobe.
Elle s'échappe, ouais.
Ouais. Le langage, pour moi, est un jeu. Pourquoi ? Parce que j'écris en français, qui n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est l'allemand. Schönen guten Tag. C'est là où chaque mot est plombé d'émotion, d'importance, dans le processus de l'apprentissage. Il y a le mot qui se couvre, qui sont lestés de choses importantes, lourdes, dramatiques, tout ce que vous voulez. Moi, à 20 ans, quand j'ai appris le français, c'était juste des jolis sons. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire.
Et c'est ça qui vous donne, je trouve, quelque chose au milieu de ces mondes décrépits, de ces corps agonisants, parce qu'il n'y a pas que des choses pas lourdes dans vos textes, Mika Biermann, mais il y a aussi du léger. Aller au diable, il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est du rire, mais... En fait, on tourne beaucoup autour de l'idée du sans importance depuis tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui, tout en écrivant sur le passé, sur la mémoire, sur la mort qui vient quand même, hein. Bon, vous nous faites croire le temps de 150 pages que ça va, c'est pas trop grave, quoi. C'est pas si grave que ça.
C'est peut-être pour ça que j'avais absolument besoin de G et de Hrons comme tampon, parce que l'histoire de ma famille... la mienne, les années, je suis né en 59, la deuxième guerre.
C'était hier.
C'était hier, et la deuxième guerre en Allemagne, pour les Allemands, c'est absolument terrifiant, terrible, honteux, et tout ce qu'on veut, c'est pas quelque chose de laquelle on peut parler à la légère. Mais j'en avais besoin d'en parler quand même, à la légère. Aussi légère qu'une petite banderole qui sort de la bouche d'un vieux décrépit qui a des autres soucis que la Deuxième Guerre, justement. Voilà.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
nous sommes mercredi à 15h50. L'heure est venue de retrouver, comme chaque mercredi, Mathilde Wagman, qui nous donne des nouvelles de la littérature jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous demandez ce qui fait un grand album pour petits-enfants.
Oui, je nous demande ce qui fait un grand album pour petits-enfants. Oui, c'est la question que je me suis posée à la lecture d'un album qui peut se lire à des enfants tout jeunes, des 3 ans, et dont j'ai su à la première lecture, de manière évidente et immédiate, que j'étais là face à un livre que je pourrais lire, relire, re-relire avec un plaisir intact à chaque fois. Un livre qui deviendra, j'en suis certaine, un classique. Un livre qui nous transmet une émotion par la seule grâce de sa forme, de son style, de la grammaire propre qu'il invente. Cette évidence-là est assez rare, finalement.
On a enregistré cette chronique, donc on verra dans 30 ans. C'est tout ce qu'on vous souhaite et ce qu'on nous souhaite. Alors, à quoi elle tient, cette évidence?
Premier indice qui ne trompe pas, d'abord la difficulté qu'on éprouve à décrire un tel livre. On a toujours peur d'en réduire la singularité en plaquant nos gros mots comme de grosses pattes sur lui. Essayons quand même. D'abord, la couverture. Sur un fond rose vif, une petite fille, cheveux noirs tressés, short et basket aux pieds, se tient dans l'ombre d'un rocher. En haut à droite, dans une police au caractère fin, en italique, le titre et le nom de l'auteur, Adrien Parlange, un abri. Le livre se présente dans un format à l'italienne, c'est-à-dire qu'il se déploie dans la largeur. On l'ouvre et on découvre une première image qui nous montre un rocher en son centre, son ombre fine projetée sur la droite, sur un fond orange et entièrement vide. L'image prend tout l'espace de la double page, façon scope, le format du western au cinéma. Au-dessous, une mince bande blanche vient accueillir le texte. Ce matin-là, dès l'aube, le soleil brûlait déjà. Puis, page suivante, d'un pas traînant, arrive une enfant. C'est la petite fille de la couverture qui s'avance en projetant devant elle une ombre aussi fine que celle projetée par le rocher, rocher à l'ombre duquel elle vient se réfugier. Alors qu'elle s'est tranquillement allongée, arrive un serpent, venu chercher là un endroit où le sol ne brûle pas. L'ombre du rocher s'est légèrement décalée et se fait plus courte. Lorsque le serpent s'y installe, face à l'enfant, elle se recroqueville, effrayée. Arrive un renard, la langue pendante et le pelage en feu, qui à son tour se colle au pied de la fillette. Au début de l'après-midi, c'est un lièvre qui vient, tandis que les rejoint un hérisson, suivi bientôt par un massif sanglier. La petite fille semble plus détendue au milieu de la bande d'animaux ainsi entassés, le hérisson ayant même trouvé refuge sur sa tête. Une petite bique, suivie d'une volée d'oiseaux, complète le tableau. Dans l'attente que le soleil se couche, tous se tiennent immobiles, silencieux. L'enfant joue désormais à l'acrobate, se tenant au centre du groupe, en équilibre, suspendu au-dessus des animaux, les pieds en appui sur la pointe du rocher et les mains agrippées aux oreilles du sanglier. À l'instant où les derniers rayons du soleil disparaissent, une pénombre grimauve a envahi tout l'espace de la page, les voilà libres. Ils se redressent, s'étirent, s'observent, et alors, dans l'obscurité, se met en marche une petite troupe joyeuse et solidaire.
Vous disiez, Mathilde, que ce serait un classique. En quel sens on peut dire ça d'un album jeunesse?
La grammaire propre d'un album pour enfants, forme d'art singulière, c'est la rencontre entre trois éléments, le texte, l'image et l'objet livre. C'est la façon dont l'auteur fait interagir ces trois éléments qui en fait la saveur et la grandeur éventuellement. Celui-ci nous saisit d'emblée par la force de sa proposition graphique, l'abstraction de son décor et l'inventivité des techniques utilisées pour le figurer. Adrien Parlange a travaillé sur des rhodoïdes, des sortes de feuilles transparentes en plastique, scannées et découpées en numérique de façon à ce que les traces laissées par la brosse de son pinceau soient visibles, tout en permettant que les éléments se découpent de manière nette sur les fonds. Le choix a été fait d'une reliure en dos ouvert, c'est comme ça qu'on dit, qui permet d'ouvrir le livre complètement à plat sans l'abîmer et de nous projeter ainsi littéralement dans l'image. Alors que le décor est unique et le rocher en son centre absolument fixe, on est frappé par le mouvement, les mouvements qui traversent le livre. Mouvement de l'ombre sur la page qui tourne progressivement autour de l'axe central du rocher. Mouvement du dégradé des couleurs qui évolue subtilement de page en page, des oranges du matin au jaune du zénith, puis au rose du soleil couchant. Mouvement impulsé par le rythme de l'histoire, qui joue sur la répétition comme dans une ritournelle. Répétitions qui sont aussi au cœur d'un texte qui travaille très finement la rime et l'allitération. Mouvement enfin, et surtout peut-être, des émotions qui traversent la petite fille et nous en retour. De la terreur initiale face au serpent, qui laisse bientôt la place à la détente et au jeu. L'émotion qui nous saisit à la découverte de cette dernière image de la petite troupe se mettant en marche, d'un même pas enjoué vers le dehors du livre, est irréductible à un quelconque message, mais elle a à voir avec ce mouvement-là, comment on passe de la peur de l'autre, de l'inconnu, à la joie partagée et un sentiment commun de solidarité. Ce sont les derniers mots du livre, je les répète. Alors se met en marche une petite troupe joyeuse et solidaire, petite troupe en guise d'utopie, petite troupe au sein de laquelle on a l'impression, refermant l'album, d'avoir été accueilli.
Et c'est très émouvant. Un abri, Adrien Parlange aux éditions
de la partie.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. Vraiment, vous ne faites qu'augmenter ma liste de désirs d'achat de livres jeunesse. franceculture.fr, lecture jeunesse à réécouter. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à un jeu, Mika Birman, on cherche de la musique dans les livres, on en a trouvé dans le vôtre. C'est donc avec un extrait de J' qu'on se quitte. Le merle, sur la branche, fit pivoter sa tête pour mieux voir les trois musiciens. Hermann, debout, mèche sur l'œil, grattait un violon. Assis sur un banc de mousse au pied de l'arbre, un blondinet portant casquette pressait et tirait le soufflet de son accordéon. Un chauve têtu, les pouces sous les aisselles, le menton en avant, l'œil torve, la bouche humide, chantait. La forêt les entourait de son bienveillant écrin de verdure, les fausses notes se perdirent dans la vallée. Leurs vestes de travail, bleues comme leurs yeux, s'accordaient bien avec le brun de la terre, le gris taupe des troncs, les escadrilles de feuilles dans le ciel jaune. Ils ne jouaient ni Bach ni Beethoven. Ce n'était pas que le trio manquât de vénération pour le cantor de Leipzig ou le sourd de service, ils avaient même entendu une sonate ou deux à la radio. En vérité, ils manquaient cruellement de technique et trop souvent de temps. Après les journées harassantes à l'usine de tissage, après le binage du potager et la culture de la patate, après les obligations familiales, ils se réunissaient parfois le dimanche matin pour jouer une petite valse ou une rengaine populaire. Les mécréants. Hermann comptait « Eins, zwei, drei ». Leur chanson préférée était « Juché sur un jaune carrosse ».
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Felder, Wiesen und Auen, ein leuchtendes Ehrengold. Ich möchte ja so gerne noch schauen. Aber der Wagen, der rollt. Ich möchte ja so gerne noch schauen. Aber der Wagen, der rollt.
Merci beaucoup, Mika Birman, d'avoir été avec nous.
Demain matin à l'aube, je vais marcher sur le pelouse. Ceux qui liront le livre sauront pourquoi. Merci, merci à vous.
J'apostrophe, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Anacharsis. Aujourd'hui, au son, c'était Jordan Fuentes, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer, penser cette émission et à trouver ce genre de pépites en allemand. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chasseur, Louise Hoth, Cyril Marchand et Alexandra Laibegovic, avec qui il est possible de poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.
Ich wär ja so gern noch geblieben, aber der Wagen, der rollt. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Felder, Wiesen und Auen, ein leuchtendes Ehrengold. Ich möchte ja so gerne